les jardinières.
Ce matin, nous allons jardiner depuis le balcon. On vous explique tout ça dans quelques minutes. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour à tout le monde.
Et sur notre balcon, il y aura aussi Tom. Bonjour Tom.
Bonjour. Ben alors moi, je serais bien emmitouflé sur ce balcon parce qu'il fait un peu froid ce matin.
Tom le jardinier, vous nous faites voyager du potager à l'assiette. Vous êtes également chroniqueur et blogueur. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, mais également sur votre site tomlejardinier.com. Merci d'être là ce matin.
Et bonjour tout le monde et bienvenue à vous toutes et tous. On se lance dans une heure de jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
Tom, dans quelques minutes, vous allez nous expliquer comment on peut transformer son balcon en potager et voir ses légumes pousser avant de les déguster. Mais pour l'heure, revenons au potager traditionnel. Mi-février, y a-t-il des tâches spéciales à effectuer ?
Eh bien, on peut gentiment commencer à semer poivrons, aubergines, si on va semer aussi les physalis, donc c'est ces petits fruits dans des lanternes, ou appelés aussi amour en cage, on peut commencer gentiment à les semer. Et puis, si on a des pots avec nos plantes qui restent à l'extérieur, il se peut qu'avec le froid qui fait ces temps, ils soient complètement gelés. Donc la plante, non, elle ne va pas souffrir du gel, mais elle va plutôt souffrir d'absence d'arrosage. Donc peut-être les abriter de temps en temps, un jour ou l'autre, et puis les arroser. Et comme ça, elles peuvent avoir les racines qui dégèlent et pouvoir être hydratées.
Justement, Tom, vous l'avez dit en préambule, ce week-end, il fait horriblement froid. Est-ce qu'il y a quelque chose à surveiller un peu plus que d'autres choses dans le potager ?
Eh bien, si on a une fontaine où c'est qu'il risquerait d'avoir un petit peu d'eau, avec le gel, ben, l'eau gelée prend plus de volume que l'eau liquide. Donc, il faut faire attention pour pas que tous ces pots éclatent, pour pas que toutes, si on aurait des belles poteries, etc. Et puis, surveiller aussi si on a des protection hivernale sur nos plantes, les remettre en place, veiller à ce qu'elles soient bien fixées et que nos plantes ne souffrent pas trop du froid. Et on est content qu'il neige un petit peu parce que la neige est un bon isolant aussi, donc ça protège aussi des vents et des froids les plus intenses.
Merci beaucoup Tom, vous êtes là pendant une heure pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs et ces questions, comme chaque samedi matin, vous pouvez les poser par téléphone à notre professionnel en direct. Le numéro c'est le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous avez également l'option SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question que vous nous envoyez au 939 ou encore par le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières et vous avez même la possibilité d'y joindre une photo pour rendre service à notre professionnel.
Dans quelques minutes, Tom le jardinier nous expliquera comment réussir des plantations sur son balcon.
Les jardinières. Les jardinières.
Les géraniums, rois des balcons, pourraient bien céder leur place à des légumes. Tom le jardinier, vous allez nous apprendre à cultiver sur notre balcon et ça porte un nom, l'agriculture urbaine. Dans cette première partie, nous allons parler de la mise en place du potager et puis nous verrons comment semer et planter des légumes. Et pour se lancer dans l'agriculture urbaine, par quoi faut-il commencer, Tom ?
Eh bien, la première chose à savoir, c'est un peu de se renseigner sur le poids. Parce que tous ces bacs, toutes ces choses qu'on va cultiver, il faut bien imaginer que le poids au mètre carré peut être assez élevé, surtout qu'il peut pleuvoir ou il peut avoir beaucoup de quantité d'eau. Donc bien se renseigner sur les capacités que notre balcon, que notre toit, parce qu'aussi certaines personnes jardinent sur des toits, et il faut bien se renseigner là-dessus.
Donc direction de la gérance.
La gérance et puis aussi regarder si on a par exemple un robinet pour pouvoir arroser. C'est aussi quelque chose d'important avant d'imaginer des plants. Puis après, ben, on va imaginer qu'est-ce qu'on aimerait cultiver. Toujours, moi, je commence toujours par là. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que j'ai envie de récolter? Avant de me dire, ben, je vais cultiver, je sais pas, par exemple des salsifis alors que je n'apprécierais pas le salsifis.
Justement, on en revient souvent à ce que tous nos professionnels le samedi matin disent, c'est déjà se faire une planification dans la tête pour après pouvoir imaginer ce qu'on a envie de faire. Et justement, sur un balcon pour la plantation, il faut des contenants. Quel type, Tom, est-ce que vous recommanderiez ?
Eh ben, moi, sur les balcons, j'ai tendance à dire qu'un petit peu d'huile de coude et de bricolage, et on fait des choses en bois adaptées, comme ça on évite d'avoir des interstices ou de l'espace perdu, donc du sur-mesure. Évidemment, on n'oublie pas de perforer ses bacs pour avoir une évacuation d'eau. C'est ce que je conseille vraiment, parce qu'avec un petit peu de bricolage, quelques planches, même de la récup, on arrive à faire des choses chouettes, sympas, on évite de perdre de la place, et puis après, sinon, on peut aller sur des... Moi, là, je donne une petite exception, j'aime pas beaucoup le plastique, je suis plutôt fan de terre cuite, mais le plastique sur un balcon, mine de rien, avec le gel des gels, avec aussi le poids, hein, une terre cuite est forcément plus lourde qu'un pot en plastique, donc je conseille éventuellement des pots en plastique.
Avant de semer, il va falloir remplir ces bacs de substrat. Comment on choisit son terreau pour le balcon ?
Alors là, pour le substrat, je veux dire deux, trois petites choses juste avant. Il ne faut pas oublier de les drainer. Donc, on va mettre des billes d'argile ou du polystyrène expansé, le fameux nom du Sagex pour ne pas dire de marque. Et on va mettre ça au fond. Le Sagex, c'est quelque chose de plus léger que ces billes d'argile. On peut en récupérer si on reçoit des cadeaux ou des emballages qu'on fait en click and collect. et puis, on peut mettre ça au fond. Après, pour le terreau, je conseillerais de bien le mélanger avec aussi du compost, avec éventuellement de la terre de jardin, si on peut en récupérer ou en acheter, pour avoir un truc assez riche aussi assez profond, donc nos bacs au moins une cinquantaine de centimètres de profondeur, c'est toujours bien pour pouvoir par exemple cultiver des carottes, parce que si on veut récolter une carotte de 30 centimètres, il faut de l'espace.
Et puis justement, vous l'avez abordé tout à l'heure, l'arrosage est important, en particulier si votre balcon, le balcon est couvert. Tom, est-ce que vous avez quelques astuces pour simplifier l'arrosage justement sur ce balcon ?
Alors, évidemment, on peut essayer d'avoir un arrosage automatique avec des minuteurs, des tuyaux, etc. Il faut bien aussi se dire que cet arrosage, ben, ça demande du temps, ça demande de le tester. Donc, si on veut partir en vacances, il faut au moins l'installer une quinzaine de jours à l'avance. Et puis sinon, on peut faire avec deux pots en terre cuite qu'on scelle et on bouche le trou, on fait des ollas. Et ces ollas, ils vont permettre de pouvoir aussi mettre de l'eau. Et avec la capillarité et de la terre cuite, eh ben, ça va diffuser l'eau gentiment pendant 10-20 jours pratiquement si en fonction de la taille. Et ces ollas, on peut les faire maison avec des pots en terre cuite. Sinon, on en trouve dans les jardineries et sur Internet des ollas tout près.
Merci Tom, on va se retrouver dans quelques minutes et vous allez nous aider à choisir les légumes à planter sur le balcon.
7h, 8h, les jardinières. 7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Tom le jardinier, nous avons abandonné les potagers traditionnels pour les balcons. Tom, nous avons parlé de la mise en place du potager sur un balcon. Il est temps de choisir les légumes. Alors, qui sont les rois du balcon ?
Alors là, enfin, il faut vraiment se faire plaisir, il n'y a pas vraiment de tendance, de choses comme ça, mais on peut avoir quelques petites nouveautés en croisement entre le chou kale et le chou de Bruxelles, le chou calette, qui fait des petits choux, des petits choux Bruxelles frisés, qui sont des nouveautés de cette année, j'ai envie de dire. Puis après, on a tendance aussi à revoir plein de vieux légumes qui reviennent aussi au goût du jour. Et puis pourquoi pas les topinambours qui sont en train de venir avec quelques variétés anciennes. On en trouve des violets aussi.
Et puis Tom, qu'est-ce que vous conseilleriez comme plantation pour des jardiniers débutants, tiens, qui se diraient « tiens, j'ai envie de me lancer avec mon balcon ».
Eh ben, pour les débutants et même pour ceux qui auraient des enfants, parce que les enfants, ils sont si pressés, ils sèment la graine, ils veulent déjà voir le résultat.
Il n'y a pas que les enfants.
Il y a les radis qui vont extrêmement rapidement, il y a la salade à tondre qui va aussi assez vite, le cresson, pourquoi pas, mais aussi les tomates cerises, parce qu'on va imaginer d'être en été, les courgettes, même en pot, ça passe. En fait, le plus difficile à réussir dans les cultures en pot, c'est les cultures qui demandent un arrosage très très régulier et surtout les légumes de type racine où c'est qu'on a un petit peu plus de mal à les réussir parce que c'est assez compliqué de faire un bon arrosage dans des pots.
Donc on va revenir justement sur ces légumes qui sont plus ou moins voués à l'échec. Vous parliez de légumes racines, style betterave, c'est compliqué sur un balcon.
Alors la betterave, ça va encore. Hein. Je pensais surtout aux carottes qui sont assez compliquées, les panais sont assez compliqués à réussir. Après, la pomme de terre, c'est très simple. Hein, une pomme de terre plantée dans son bac, on va réussir. Moi, j'ai aussi eu un petit peu de difficulté avec les scorzonaires, les salsifis.
Et puis, en fin de saison, ça fait quand même passablement de bac qu'on peut poser sur notre balcon. Est-ce qu'il faut les laisser en terre nue ou faire comme dans le potager traditionnel et planter des engrais verts?
Alors, on peut mettre des engrais verts, mais sur un balcon, il ne faut pas hésiter. On a aussi des herbes aromatiques qu'on peut mettre dedans pour l'hiver, du thym, tout ce genre d'herbes aromatiques vont résister. Puis, pourquoi pas avoir des épinards aussi, de la mâche. Et puis ça fera aussi office d'engrais verts si au printemps, on veut les mettre dans la terre. Après, ça serait bien d'avoir quelques vers de terre dans la terre et de la vie dans cette terre-là pour qu'ils viennent décomposer et se nourrir de ces végétaux. Mais on n'est pas obligé d'avoir un engrais vert. On peut vraiment se permettre de mettre des choses qui se mangent. Les mizuna, les petsai, qui sont des légumes asiatiques, qui sont aussi des salades qu'on peut avoir. Donc, il ne faut pas se priver.
Merci beaucoup Tom. Et puis ces bacs sur le balcon peuvent aussi servir pour le recyclage, pour le compost. Hein.
Évidemment, donc on appelle ça ça peut faire aussi office de bokashi. Donc bokashi, c'est une technique qui fait qu'on peut récupérer son thé de compost. Donc c'est un liquide avec les déchets du compost. Puis on peut arroser, ça engraisse ça donne de la nourriture à nos légumes.
Bon, désormais, plus besoin de terrain pour avoir un petit potager. Et quel plaisir de déguster ses propres légumes issus de son travail. Merci beaucoup, Tom, pour tous ces conseils. Les jardinières reviennent dans quelques instants. Et Tom répondra, bien sûr, à toutes vos questions.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
Deuxième partie des jardinières, si vous avez manqué la première et notre discussion sur comment aménager son balcon en potager, vous pourrez nous réécouter sur notre site dans le courant de la matinée. Nous sommes en compagnie de Tom le jardinier, blogueur et chroniqueur, à suivre via les réseaux sociaux ou sur son site tomlejardinier.com.
Place maintenant donc à vos questions jardinage. On les attend comme toujours par téléphone pour être en direct avec nous au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question au 939 ou par le formulaire avec la possibilité d'y joindre une photo. Ça se passe sur notre site sous l'onglet émission, questions aux jardinières.
On va juste revenir sur les questions sur le balcon. On parlait tout à l'heure, on a parlé de l'arrosage des bacs, mais on n'a pas parlé de l'ensoleillement. Parce que certains légumes ne vont pas supporter un ensoleillement. Par exemple, si vous avez votre balcon plein sud, ça risque de les faire brûler, Tom.
Alors, pas forcément brûler, mais ça risque surtout de les faire remonter à graines, peut-être un petit peu trop rapidement. On parle surtout dans le cas des tomates, des salades. Par contre, si on les plante au pied des tomates, elles auront un petit peu d'ombre. Donc, on peut aussi un petit peu jouer avec différents strates de légumes pour avoir des plantes plutôt à l'ombre. Après, ce qui est aussi important est de savoir, c'est que les murs de notre maison vont emmagasiner de la chaleur et la rediffuser un petit peu la nuit. Donc, c'est aussi quelque chose pour hâter un petit peu certains légumes. Donc, aussi, ce qui est fondamental avant forcément l'ensoleillement, j'aurais plutôt tendance à dire pas assez de lumière que trop de lumière, hein, parce que certaines fois, les rambardes opaques peuvent créer des situations d'ombre, voire d'extrême ombre, parce que le soleil n'atteint jamais certaines parties. Donc, plutôt ce genre de choses-là qu'il faut faire attention que forcément l'ensoleillement.
Donc, du coup, on leur met un petit parasol sur la tête pour comme ça, ils vont bien.
On a les stores de certains balcons qui peuvent être utilisés pour faire de l'ombre à nos plantes en cas de grosses canicules.
Et vous parlez justement des rambardes qui peuvent cacher la lumière. Est-ce que sur les balcons, c'est une bonne idée alors d'avoir des bacs surélevés?
Alors, on peut un petit peu surélever, mais par contre, ce qu'il faut faire très attention, c'est que si on dépasse le balcon et qu'un pot risque de tomber, on est fautif et on peut créer des dégâts et on peut aussi imaginer un pot qui nous tombe sur la tête. Ça peut créer quelques dommages aussi.
Bon, faut trouver la personne d'où est venu le balcon, tiens.
Oui, donc il faut faire tout de même attention. Je conseille vraiment de rester dans les limites du balcon.
Je propose.
Mais en parlant de ces rambardes, ça peut être aussi un support pour mettre des haricots à rames qui peuvent pousser là-dessus. Et puis ça peut nous protéger des regards du voisin par des haricots qui se mangent.
C'est une possibilité pour ne pas avoir de vis-à-vis. On parle de balcon, on parle de pot et on parle de géranium, je vous propose, Tom, puisque ben, on les retrouve souvent sur les balcons quand même, les géraniums. Et cet auditeur nous a envoyé, mes géraniums ont certaines feuilles qui sont devenues toutes jaunes, dois-je simplement les retirer ?
Alors, jaunes, on peut encore les laisser un moment, jusqu'au moment où elles deviennent sèches. Par contre, si elles commencent à avoir un petit feutrage dessus, c'est qu'on est vite sur du botrytis, donc on les enlève tout de suite.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. On attend vos questions.
Oui, par téléphone 0900 70 20 20 pour être en direct et poser votre question directement à notre professionnel. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin un espace, votre question au 939 ou par le formulaire qui se trouve sur notre site. Et justement, ce matin, on a reçu une question de Jérémy qui a des poules et qui aimeraient savoir comment faire pour que l'eau de leurs abreuvoirs ne gèle pas, mon cher Tom.
Eh bien, des poules dans le jardinage, on aura tout vu. Non, une petite astuce, c'est qu'on peut mettre dans l'eau, il y a certaines fois des toutes petites pompes qui font que l'eau ne stagne jamais. Et une fois que l'eau, elle stagne, elle a tendance à geler, tandis que si elle ne stagne pas, eh ben, elle peut ne pas geler. Autre chose, ben, on va évidemment essayer de placer cette auge, cette récipient d'eau, le plus à l'abri possible du vent, le plus à l'abri possible d'éventuellement gros froid. Et puis, on peut aussi le protéger avec un peu de paille.
Merci, on espère que Jérémy a bien pris note de ses conseils et que ses poules vont
pouvoir... Un petit peu de patin à glace et puis plus de glace, quoi.
Voilà. On va parler de tulipes et de hyacinthes. Une personne a retrouvé des bulbes de tulipes et de hyacinthes chez elle. Elle a oublié de les planter en automne. Est-ce qu'elle doit attendre l'automne prochain pour les planter? Si oui, comment les conserver? C'est une question de Ida de Couvet.
Alors, la question qu'il faut se poser, c'est que sur certains sachets, les bulbes de jacinthe et de tulipe ont déjà été forcés au froid. Donc, si elles ont déjà été forcées au froid, on le trouve, cette indication, sur le paquet. Et si elles ont été forcées au froid, elle peut déjà les planter. Par contre, si elle les plante... De toute façon, il faudrait les planter tout de suite, le plus tôt possible. Sauf maintenant, c'est que c'est tellement gelé, donc c'est un peu compliqué. Donc peut-être les planter dans un pot avec du terreau, ça peut le faire.
Sur son balcon.
Par contre, pour l'induction à la fleur, pour qu'elle ait des fleurs, il faut une certaine période au froid. Donc je crains que malheureusement, ça ne sera pas pour cette année la floraison. Mais par contre, elle va faire des feuilles sans problème.
Est-ce qu'elle peut mettre ses bulbes au frigo?
Alors, ça se fait dans les jardinages professionnels pour avoir, par exemple, maintenant déjà dans nos garden centres, des tulipes, des jonquilles, des narcisses, dans ces petits pots qu'on peut mettre pour les jardinages. On peut mettre des fois faussement dans des frigos des bulbes de tulipes aux alentours de août pour les ressortir que maintenant, donc dans des serres bien chauffées pour avoir des tulipes en fleurs maintenant.
Merci beaucoup, Tom. Je vous propose d'enchaîner avec cette nouvelle question. J'ai lu que les racines des arbres proches des habitations pouvaient endommager les tuyaux. Nous avons un cèdre à proximité de notre maison. Est-ce que l'on doit s'inquiéter ?
Alors, je ne connais pas précisément le cèdre en termes de racines, mais je sais que par exemple la glycine peut poser des problèmes quand elle est posée trop près de la maison, alors que c'est une plante qu'on voit régulièrement proche des maisons. Par contre, s'il est encore jeune ce cèdre, ça serait peut-être le moment de se dire, et si on le déplaçait, on est dans une période hors si gros gel où on peut le faire jusqu'au mi-mars sans trop de problèmes. Donc il faut se poser la question déjà, est-ce qu'on peut encore le déplacer ou il a trop grandi? C'est une chose à être vigilant là-dessus.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, dernier petit quart d'heure en compagnie de Tom le jardinier. On va profiter de ces dernières minutes ensemble pour parler un peu de la Saint-Valentin, parce que c'est quand même demain la fête de l'amour, des amoureux et de tout ça. Et les fleurs sont souvent, très souvent, à l'honneur. Alors, il y a les roses, Tom, qui sont partout. On va commencer par parler un peu des roses. Comment faire pour les conserver ?
Alors, le truc à faire avec les roses, c'est de retailler régulièrement leur base pour, en tout cas, une fois tous les deux jours, et changer l'eau régulièrement. Puis, il y a une étude scientifique qui a été un peu faite pour toutes les fleurs dans les bouquets. Au lieu de mettre du bicarbonate de soude ou quelques gouttes d'eau de Javel ou tout genre de choses-là, la meilleure technique, ce serait de mettre une cuillère à soupe de sucre par litre d'eau pour nourrir nos fleurs et puis pas utiliser les petits sachets forcément. On n'en a pas forcément tout le temps chez les fleuristes, donc on peut utiliser ce genre de choses.
Alors moi j'ai envie de poser une question et je pense qu'on est nombreux, nombreux hommes se posent la même question parce que on a un peu l'habitude des roses, d'offrir des roses pour la Saint-Valentin, mais si on a envie d'être un petit peu original, Tom, quelle autre fleur offrir ?
Eh ben moi j'aurais envie de dire, on est dans les jardinières, soyons fous, on peut offrir des plantes en pot. Et des plantes en pot, elles dureront peut-être plus longtemps et peut-être être aussi synonyme d'un amour qui dure.
Oh, et le romantisme du samedi matin.
Et pourquoi pas un arbre fruitier où on cède quelque chose pour longtemps et qui pourrait donner des fruits. Et enfin voilà, c'est on pourrait cultiver des choses pour longtemps. Après, si on veut être très très original, on peut avoir des tulipes aussi ces temps qui sont en fleurs. On peut aussi être un petit peu plus recherché aussi avec notre fleuriste dans la signification des plantes. Ou on peut aussi mettre un message caché avec des petites violettes pour dire c'est synonyme d'un amour naissant. Donc il faut aller rechercher dans la signification des fleurs. Il y a pas mal de choses qu'on peut...
Bon, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, quoi.
Vous avez parlé des plantes en pot, Tom. On va peut-être éviter le ficus ou autre plante qu'on connaît déjà. Qu'est-ce que vous proposeriez à un homme ou à une femme pour offrir ? Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui offrent des cadeaux.
Alors, en fleurs, en ce moment-là, souvent dans les jardineries, on peut trouver des jasmins d'intérieur, on peut trouver des hortensias, on peut trouver des azalées. Mais après, soyons complètement fous, pourquoi pas des groseilliers en pot ? Pourquoi pas... Enfin, l'important, c'est de savoir aussi à qui... Enfin, théoriquement, en couple, on sait à qui on va l'offrir. Donc, qu'est-ce qui lui fera plaisir ? Je pense que un bouquet de roses pour quelqu'un qui n'aime pas forcément des plantes qui vont mourir et qui peuvent sentir mauvais à l'intérieur si on s'en occupe pas trop, on préférera peut-être avoir une plante qui va donner des fruits sur son balcon. Alors revenir sur le thème du jardinage sur le balcon ce matin.
Justement, l'originalité, on a compris, vous étiez dedans, Tom. Pour les gens plus traditionnels, c'est quoi le bouquet idéal ?
Alors, je crois, si mes souvenirs d'horticulture et un petit peu de bouquet sont bons, théoriquement, c'est un bouquet de 33 roses rouges.
Ça fait beaucoup, dis donc.
Je crois que c'est quelque chose comme ça pour évoquer l'amour et ce genre de choses-là. Après, toujours un nombre de fleurs impair. Hein, ça, c'est aussi pour la bonne structure du bouquet. Et puis, si on veut aussi aller, pourquoi pas le faire soi-même. Donc, essayer d'aller visiter un jardin, un parc, regarder aussi des choses qui sont en fleurs en ce moment. En plus, on sera de saison. Donc, il n'y a rien de plus, je vais dire... inécologique, de plus gaspillage de climat, d'acheter des roses en cette saison. Elles viennent souvent d'Afrique, elles viennent souvent de Hollande, cultivées sous serre, avec des lumières, avec des chauffages. Donc les tulipes, c'est déjà un peu moins le cas. Donc vraiment, si on a une conscience écologique, le bouquet de roses pour la Saint-Valentin, c'est vraiment, je ne vais pas dire une idiotie, mais presque.
Merci beaucoup, Tom, pour tous ces bons conseils et en sur plus, le bouquet de la Saint-Valentin, oui.
Je viens de retrouver que dans l'Antiquité, la rose est associée à la déesse Aphrodite qui lui donne sa beauté. Dionysos, le dieu du vin, lui offre ensuite son parfum. Et enfin, c'est Apollon qui lui offre sa lumière pour la faire éclore. Voilà pourquoi c'est la rose à la Saint-Valentin.
On va, avant de laisser partir Tom chercher son bouquet de la Saint-Valentin, lui demander quel geste faire au potager ou au verger ce week-end.
Alors, on peut continuer, pour parler du verger, on peut continuer de tailler, on peut continuer, si le sol n'est pas trop gelé, essayer de creuser des trous pour planter des nouveaux arbres fruitiers. On a jusqu'au début du réveil de la nature pour le faire. On peut regarder s'il n'y a pas de branches cassées, parce qu'il y a du vent, du froid, il peut y avoir eu de la neige humide qui peuvent casser des branches. Si c'est le cas, on fait des belles plaies de taille. On badigeonne ou on badigeonne pas, selon notre religion, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un peu des batailles un peu là-dessus. Si on a une conscience un petit peu plus écologique, on va peut-être mettre de l'argile pour faire les retailler sur pour les plaies de taille. Ce qu'on peut aussi faire, c'est évidemment bouturer. Le bois mort, ce que j'appelle, mais c'est pas du bois mort, c'est juste du bois sans feuilles, donc cassis, groseillier peuvent se bouturer facilement, donc on peut y aller.
Et puis si on a envie d'attaquer le jardin sur son balcon, on rappelle peut-être le premier geste à faire.
On peut faire à l'atelier, bien au chaud, construire les bacs qu'on peut mettre, faire les plans, regarder où c'est qu'on va passer, est-ce que le tuyau d'arrosage passera bien, etc. etc. On peut gentiment s'y mettre aussi.
Merci beaucoup Tom, on rappelle que vous êtes blogueur et chroniqueur, on peut également vous suivre sur les réseaux sociaux ou sur votre site internet tomlejardinier.com. Belle journée et merci d'être là et à tout bientôt.
Merci beaucoup, sortez avec une grosse doudoune, il fait froid.
Merci Tom, bon week-end. Les Jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h. Nous serons en compagnie de Philippe Detra, horticulteur bio à Neuchâtel. Bon week-end Raphaël.
Mais bon week-end Mylène, et n'attendez pas pour nous envoyer tout plein de questions d'ici samedi prochain.
Non, bon week-end et prenez soin de vous, ciao.
7h, 8h, Les Jardinières.